Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, bienvenue à bord de l'émission Libre Propos, l'émission hebdomadaire de Radio Rancière qui nous permet de recueillir pieusement, avec réflexion, la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori. Monseigneur, bonjour, merci de votre fidélité.
Bonjour Christophe.
Alors là, cette semaine, nous avons plusieurs sujets, comme toujours. Il y aura un sujet sur les élections européennes, on va parler un peu de politique. On parlera ensuite de la place du beau. La place du beau, de la beauté dans la vie chrétienne. Est-ce que Dieu est beau ? Dieu est bon, on le sait. Est-il beau ? Et puis, pour commencer, la journée diocésaine des migrants, ce sera samedi 18 mai à la Visitation à Chartres à partir de 10h. C'est à l'initiative de la pastorale des migrants, en votre présence, bien entendu, mais avec une guest star, c'est le Père Guy Gilbert.
Oui, le Père Guy Gilbert est un prêtre de Paris assez étonnant qui, maintenant, a 84 ans,
oui.
Qui est un homme particulier, qui a été au service des, comme il dit, des loubards depuis toujours. Il a été très investi près des jeunes dans les quartiers nord de Paris. Et puis, il a monté une maison qui s'appelle le Faucon en Provence, où il accueille des jeunes en précarité, en difficulté, avec notamment sa fameuse zoothérapie. C'est-à-dire qu'il y a des vaches, il y a des cochons, des sangliers. Comme il dit, ben, quand un loubard s'occupe d'un sanglier, ça change son rapport à son propre corps, à sa vie. Et c'est un lieu de reconstruction. J'aime beaucoup Guy Gilbert, il est très franc. Il a un look, c'est vrai, qui dérange un peu, des cheveux longs, des pins, c'est un cuir. Mais il aime profondément Dieu. Il aime profondément l'Église. Je me rappelle de lui, à Rome, j'étais séminariste, il avait prêché une retraite et il avait concélébré le matin tôt avec le pape Saint Jean-Paul II. Il était revenu absolument ému en disant « j'ai bu dans le calice de Jean-Paul ». Il était vraiment très ému de ça. Pour lui, c'était vraiment l'Église qu'il aime. Il a toujours été à tous les rendez-vous de messe chrismale, d'ordination de prêtre, toujours au rendez-vous. Vraiment, il a beaucoup écrit sur celui qui est pauvre, celui qui est à la marge, celui qui est en difficulté. Donc, il va venir pour cette journée des migrants, qui est une belle journée ici à la Visitation, qui rassemble des gens qui viennent de différents horizons. On en a dans le diocèse, on en accueille bien sûr beaucoup au Château des Vaux, grâce aux apprentis orphelins de taille, mais aussi des familles accueillies, notamment à Dreux, je pense à Vernouillet, où près du presbytère, il y a une maison avec quelques personnes aussi, accueillies par le curé, le père Jean-Marie Lioul. Cette journée, elle est d'abord festive, elle est fraternelle, c'est de rencontres, et le thème, c'est effectivement transmettre la foi.
Transmettre la foi, très difficile, c'est un défi. Alors, pas que pour les migrants, d'ailleurs.
Oui, mais ces migrants, vous savez, ils arrivent d'Afrique pour une partie. Ils ont la foi. Ce sont des religieux. Ce sont des pays où tout le monde croit. Ouais. Alors, en quoi on croit, ça peut être assez divers. Mais ils ont une perception du surnaturel qui est forte. Après, nous, c'est vrai que nous sommes catholiques, donc on va respecter ce qu'ils sont. Ils peuvent être chrétiens, catholiques, protestants. Ils peuvent être musulmans, certains. Ou autre chose, animistes, par exemple. Mais c'est vrai que notre richesse, notre joie, c'est Jésus-Christ. Donc, on essaiera de témoigner un peu de ce qui est vécu dans l'église à Chartres auprès de ces personnes.
Ouais. Et le pape François est très, je ne sais pas, non pas exigeant, mais il a réellement une fibre très importante quant à l'accueil des étrangers et des migrants. Hein. Il nous le rappelle sans cesse également.
Bah, le pape François, en fait, ne fait que répéter l'écriture. Hein. J'étais un étranger, tu m'as accueilli. Que l'étranger soit dans ta maison comme ton fils. Donc c'est des paroles difficiles, parce que pratiquement, on commence ce qu'on fait, mais elles nous interpellent forcément.
Ouais. Tout le monde est invité
à cette journée. Le monde est invité, ouais. Toujours.
Deuxième sujet, les élections européennes du 26 mai, la campagne a commencé. Comment vous la sentez-vous, cette campagne? Vous avez le temps quand même de regarder un petit peu la télévision, de lire les journaux?
Alors d'abord, je n'ai pas de télévision.
Ah.
Donc c'est déjà un premier point. En fait, pour être franc avec vous, la télévision, j'aime ça. Donc, s'il y avait une télévision, je passerais trop de temps devant. Donc, autant ne pas en avoir. Alors, j'ai la radio que j'écoute, j'ai aussi un peu Internet, donc des journaux sur Internet, ça m'arrive d'en consulter. Moi, je ne suis pas un homme politique, donc je ne veux pas prendre parti pour un parti ou pour un autre. La question que je me pose, c'est quelle vision de l'homme on a en Europe? Quelle vision porte-t-on? Vous savez, l'Europe, c'est... Ça a été le centre du monde, on a été des pays puissants, on a envahi le monde entier. Aujourd'hui, l'Europe, c'est pas grand-chose. C'est 7% des habitants de la planète, c'est 20% du PIB mondial aujourd'hui encore.
Ce qui n'est pas rien.
Et 55% des aides sociales du monde entier. Alors on pourrait se dire quelle chance on a. Peut-être qu'il faut en prendre conscience. On peut dire pourquoi d'autres ne font pas mieux que nous au niveau aide sociale. Donc est-ce qu'on est un modèle pour eux? Peut-être à voir. On peut aussi se dire, puisqu'on peut donner 55% des aides mondiales juste pour l'Europe, peut-on partager plus à d'autres pays qui n'ont pas ça? Peut-être que oui. En tout cas, l'Europe a une vision de l'homme, mais laquelle aujourd'hui porte-t-on? L'Europe est un territoire ouvert où l'on circule librement, et j'aime beaucoup ça. La monnaie unique permet de sentir chez soi aussi dans d'autres pays, de partager avec Erasmus un tas d'échanges. Je suis heureux d'avoir une Europe ouverte. Ouais. J'espère qu'on ne va pas la resserrer.
Voilà. Il y a un candidat également qui est officiellement, si j'ose dire, chrétien, philosophe chrétien, François-Xavier Bellamy, qui est venu dernièrement dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Rochelle. Vous êtes attentif à ce qu'il peut écrire?
Il n'est pas le seul catholique.
Non, bien évidemment.
Dans
bien
les
évidemment.
Candidats... Maintenant, je ne vais pas forcément appuyer quelqu'un parce qu'il est catholique, mais aussi par la vision de l'homme qu'il porte, la vision politique qu'il porte avec son groupe politique. J'essaierai d'écouter et j'irai voter.
Ouais. Voilà, tout le monde doit aller voter le 26 mai.
Oui, je pense qu'il doit voter.
D'autant qu'on annonce un taux de participation extrêmement bas, ça, on le sait.
Moi, je le regrette parce qu'on a la liberté de voter en Europe et c'est quand même précieux. Et notre vote va être comptabilisé. Alors qu'il y a des pays où quand on vote, quand on peut voter, parfois on n'est même pas comptabilisé, c'est trafiqué quoi. Il faut voter, je pense, même si on n'est pas d'accord avec tous les partis, avec tout ce qui se dit, il y a un choix à faire, une option à prendre.
Troisième sujet, j'aimerais, Monseigneur, qu'on évoque ensemble la place du beau, de la beauté dans la vie chrétienne, dans la vie ecclésiale. Alors, l'idée m'est venue d'en parler suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et après l'évocation dans les médias des multiples projets de restauration, projets dont certains font un peu frémir. On a parlé d'un toit végétalisé, ça peut être bien, pourquoi pas au-dessus d'une maison, cathédrale, peut-être pas. Enfin bon, avant d'évoquer le beau, je voudrais vous connaître votre position justement par rapport à la restauration de Notre-Dame. Vous êtes ingénieur, donc...
Je suis ingénieur, oui. Vous savez, je suis allé visiter il y a quelques jours... la cathédrale de Strasbourg. Ce qui est particulier à Strasbourg, c'est qu'il y a la fondation de l'œuvre Notre-Dame, qui a 800 ans, qui est une fondation qui finance la restauration du bâtiment. À côté de ça, ils ont un conseil de fabrique, dont la vocation est de financer l'entretien. Ce qui apparaît dans ces monuments incroyables, tant dans leur construction que dans leur entretien, c'est qu'on a cherché les meilleures techniques. Les meilleures techniques pour construire, pour avoir le meilleur processus de construction, les meilleurs matériaux. Et souvent, ça a même été d'avant-garde, avec un imaginaire incroyable. Quand il faut monter des pierres à plus de 100 mètres de hauteur, créer des voûtes incroyables, monter des vitraux magnifiques, il fallait un vrai génie. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand je pense à Notre-Dame, certes, elle a brûlé, et que le réflexe souvent, c'est de faire un peu de l'ancien, moi, je me dis, il faut qu'on opte pour des techniques modernes et des matériaux modernes. Et au fond, Chartres, ici, a brûlé en 1836, je crois, donc il y a un siècle et demi, on a reconstruit en fonte. À l'époque, c'était excessivement d'avant-garde. Et cette charpente de Chartres en fonte, elle est couverte de cuivre, qui fait un toit vert à l'extérieur. C'était très, très osé. Et aujourd'hui, c'est classé monument historique en tant que tel. Moi, je ne serais pas du tout contre qu'on prenne des matériaux modernes pour faire cette toiture, bien sûr en donnant une esthétique un peu traditionnelle à cette cathédrale, qui le mérite. On ne va pas non plus la défigurer pour faire moderne. Mais voilà, ça, c'est
mon point de vue. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Je sais pas, on peut imaginer du verre, on peut imaginer plein de choses.
En tout cas, je pense que la charpente pourrait bien être en métal, de façon à ce qu'elle soit moderne, efficace, durable. Voilà, je ne vois pas très bien pourquoi on couperait plein d'arbres pour faire ça. Je ne le sens pas personnellement. Après, certains décideront.
Alors, la place du beau dans la vie du chrétien, elle est importante. Je voudrais citer une très jolie phrase du poète chrétien Xavier Graal. C'est une phrase extraite d'un de ses billets d'Olivier dont il régalait les lecteurs de la vie catholique dans les années 70. Il disait, parce que bon, il voyait des choses qui se passaient dans les années 60-70 qui le heurtaient un peu, il disait « Tout homme a le droit à son bol de splendeur ».
Oui, moi je pense que le beau est... Le beau crée l'harmonie, le beau aide les gens à vivre. On aime tous voir un beau paysage. En ce moment, dans la campagne, il y a des lumières incroyables. Il y a deux jours encore, je voyais à la fois des nuages noirs d'orage et du soleil dessus, et le vert des arbres. C'est magnifique. Donc le beau aide beaucoup. Dans la vie de l'Église, on a bien sûr au cœur la liturgie des messes, de l'Eucharistie, et je milite pour qu'on fasse très beau. Le beau n'est pas forcément le cher oui. ou le riche, mais le beau passe par des matériaux. Moi, j'aime beaucoup les matériaux. Je trouve qu'un matériau qui est beau, qui a d'épaisseur, qui a une texture, qui a une histoire, déjà, il est beau dans sa matière. Oui. Après ça, on fait des formes, on le taille, on l'agence, on construit avec cela. Mais c'est vrai que la matière, par exemple, un beau vêtement d'une belle matière, même s'il est sobre, est déjà beau. Et le beau dispose... La vie intérieure, voir un bel aménagement où c'est propre, où les cierges sont beaux, où la liturgie est belle, fait que l'être humain, d'un coup, est apaisé dans sa propre intimité et se dispose à entendre Dieu lui parler. On a besoin de faire beau partout où on est. Et heureusement, en France, on a de très belles églises. On a aussi des gens qui prennent soin des monuments historiques, les communes font attention à leur environnement par des fleurs, par des aménagements. C'est très précieux. Il y a des pays où, malheureusement, faute d'argent, et souvent c'est la pauvreté qui est là, les choses sont sincèrement laides, tristes, les matériaux sont moches et parfois même délabrés. Comment vivre dans ce cadre-là, c'est difficile. Ce qui reste très beau chez ces gens-là, en général, c'est le sourire et la relation. Il retourne à ça. Peut-être que nous, on a gagné aussi là-dessus. On a peut-être la chance d'avoir beaucoup de belles choses, mais peut-être qu'on a perdu le beau sourire, simplement lieu de rencontre.
Il nous reste une petite minute. Avez-vous une petite anecdote à nous livrer ?
Une anecdote, oui, j'en ai une. C'est d'avoir vécu il y a quelques jours, c'était le 8 mai, les célébrations, d'une part au monument aux morts de Chartres. Puis, on a inauguré une stèle assez simple, mais qui fait mémoire d'hommes et de femmes juifs qui ont été déportés pendant la guerre. Et enfin, il y avait le monument aux morts, enfin le monument Jean Moulin, qui rappelle l'héroïsme de cet homme qui a été préfet de Chartres. Et le lendemain, le 9 mai, j'ai pu aller à la commémoration faite par la police pour les policiers morts en service durant l'année. Assez émouvant. J'étais heureux d'être là pour être à la fois près des familles, des autorités, mais pour le dire très simplement, pour prier pour ces hommes, ces femmes qui sont morts. En même temps que se déroulait la célébration, la commémoration, moi, j'ai voulu prier pour cela, pour que Dieu les accueille dans sa gloire et apaise les familles.
Oui, d'autant qu'il y a une grande détresse aujourd'hui chez les policiers, on le sait.
Grande détresse et qu'ils ne méritent pas.
Oui. Merci Monseigneur, on arrive au terme de cette émission. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Libre Propos. D'ici là, bien reste à l'écoute des programmes de Radio Rancière, la radio qui rapproche les hommes